Al-Qaïda menace la France. Je ne fais là que reprendre le titre d'un récent ouvrage d'Antoine Sfère, directeur des Cahiers de l'Orient, l'un des meilleurs connaisseurs de l'islamisme, un homme habituellement peu enclin à exagérer, et qui n'a pas hésité à illustrer la couverture de son livre par un photomontage montrant un avion percutant la tour Eiffel. Alors, faut-il avoir peur? Un attentat terroriste perpétré par les élateurs de Ben Laden est-il déjà programmé et quand frappera-t-il notre territoire? Pour ce faire, mais aussi pour bon nombre de spécialistes du terrorisme, notre engagement militaire en Afghanistan accroît la menace. Et la France, malgré son refus de participer à la guerre de George Bush en Irak, demeure une cible. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré récemment le numéro 2 d'Al-Qaïda, le docteur Al-Zawahiri. Mais c'est essentiellement la montée en puissance de l'autre côté de la Méditerranée, du GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui inquiète. Un mouvement terroriste qui se présente aujourd'hui comme une branche d'Al-Qaïda et qui aurait adopté un nouveau nom, Al-Qaïda Maghreb islamique. Mais j'emploie le conditionnel à dessein car ce rapprochement n'est avéré que par des textes de propagande. C'est en tout cas le GSPC qui a frappé le 11 avril dernier au cœur d'Alger et qui, selon la police, préparait des opérations suicides au Maroc. Alors, assiste-t-on à une unification des groupes terroristes au Maghreb et plus largement dans le Sahel, qui risquerait de devenir, au dire des Américains, un nouvel Afghanistan? Toutefois, il convient, c'est l'avis de M. X, de demeurer prudent. Les services secrets algériens sont en effet des experts en manipulation et les appétits des États-Unis pour les ressources pétrolières et gazières de la région ne doivent pas être négligés. Dans un instant, M. X essaie d'y voir plus clair.
Tout d'abord un chiffre. Selon des sources policières françaises, depuis le 11 septembre 2001, une douzaine de tentatives d'attentats a été déjouées chaque année.
En France, c'est énorme, hein?
En effet, oui, mais c'est pas un hasard quand même. Si c'est à Paris qu'a été installée une structure internationale qui rassemble des représentants de la plupart des grands services de renseignement occidentaux. Une structure où, naturellement, la CIA occupe une place de premier plan.
Je crois me souvenir que c'est un journaliste de France Info, Franck Cognard, qui a révélé l'existence de cette multinationale du renseignement.
C'est parfaitement exact. Alors, bien sûr, il faut se méfier, ou plutôt se défier d'une quelconque psychose, mais la menace est bien réelle.
Et là, alors, vous voulez parler de ce fameux GSPC, qui serait maintenant inféodé à Al-Qaïda.
Ah mais attention, je vous ai déjà dit que l'organisation de Ben Laden n'était nullement centralisée. C'est une nébuleuse à laquelle s'agrègent des mouvements armés, des mouvements franchisés qui se réclament d'Al-Qaïda pour de pures raisons de propagande.
Ouais, pour se mettre en valeur, en somme.
Oui, et puis pour susciter la peur, c'est certain. Mais il faut bien comprendre que lorsque des bombes éclatent à Madrid ou à Casablanca, l'ordre n'est pas venu de Ben Laden.
Il y a quand même des similitudes entre les méthodes traditionnelles d'Al-Qaïda et celles qui ont été utilisées dans les dernières opérations terroristes perpétrées au Maghreb.
Les voitures piégées,
oui.
Les attentats suicides et les martyrs. Mm-hmm. Certes, mais ça ne suffit pas à désigner précisément Al-Qaïda. Malheureusement, ces méthodes se sont généralisées. Et bien, on le voit tous les jours, en Irak, dans la lutte sanglante que se livrent les extrémistes chiites et sunnites.
En Afghanistan aussi,
oui,
maintenant.
Enfin, revenant au GSPC qui n'a pas été créé par Al-Qaïda, comme certains spécialistes ou considérés comme tels l'affirment.
Alors, comment est-il né?
Pour bien comprendre, il faut remonter au GIA algérien.
Le groupe islamique armé, c'est ça?
Et en même temps, oui, ça nous donnera quelques clés pour décoder ce qui se passe en ce moment dans le Maghreb et le Sahel. Le point de départ, ce sont les élections législatives de 1991 en Algérie.
Ouais. Élections dont le premier tour a été largement gagné par les islamistes du FIS,
ce qui a conduit les militaires tout puissants depuis l'indépendance à annuler le deuxième tour et à déposer du même coup le président algérien Chadli Ben Jedid. Puis c'est le FIS qui est peu après dissous. Conséquence, certains de ces militants choisissent la clandestinité et l'action armée.
Et c'est ainsi que va naître le GIA.
Ou plutôt les GIA, car on assistera à la naissance de plusieurs organisations plus ou moins autonomes. Puis il y a aussi le bras armé du FIS, l'AIS, L'armée islamique du salut.
Ah, étonnez, la différence là, avec les GIA.
Ben, en principe, l'AIS refuse de s'en prendre aux civils et aux étrangers.
Mm-hmm. Et qui sont ces militants alors qu'ils vont commettre d'innombrables exactions, hein?
Innombrables, oui. Car cette sale guerre qui va durer plusieurs années fera entre 150 000 et 200 000 morts. Alors les militants, eh bien, ils sont d'origine très diverse. Il y a d'abord ces types qu'on appelle les Afghans.
Parce qu'ils ont combattu les soviétiques en Afghanistan.
C'est ça, oui, les fous de Dieu qui vont exploiter la situation sociale, le chômage, la pauvreté. Et puis toute une frange de marginaux, de petits voyous va les rejoindre. Mais il ne faut pas oublier, nous en avons parlé il y a 3 ou 4 ans, que ces islamistes ont été manipulés par ces mêmes militaires qui vont maintenant les combattre.
Ouais, un petit rappel quand même.
Bon, l'armée, après avoir tout fait pour que les islamistes gagnent les élections, va se donner le beau rôle en évitant au pays de devenir un nouvel Iran. Et en Occident, à part quelques exceptions, on approuve. Car même si on n'a guère de sympathie pour les généraux qui ont interrompu le processus électoral, on respire. Le danger islamiste faisait très peur.
Oui, mais il me semble me souvenir, moi, que François Mitterrand a fait la fine bouche.
Oui, en fait, il a été très très prudent. Il a condamné l'intervention des militaires, ce qui a suscité la fureur des généraux. Mais dans le même temps, le président français a déclaré comprendre leur motivation. La France va donc, objectivement, soutenir les généraux, en refusant par exemple de réduire l'aide économique à l'Algérie.
C'est donc, soyons clairs, c'est donc une sorte de coup d'État qui a été perpétré.
Les généraux ont gagné, mais en se servant du fils pour accroître leur pouvoir, ils ont ouvert la boîte de Pandore et déclenché un cycle infernal.
Ouais, c'est l'horreur des massacres de civils.
Mais en attendant, il y a la parenthèse Boudiaf. Je résume. Ces militaires qui détiennent tous les leviers du pouvoir politique, militaire et économique, préfèrent demeurer dans l'ombre. Il leur faut un paravent civil qu'ils pourront manipuler. Un homme qui leur permettra de continuer à percevoir de substantielles commissions sur les importations de biens, les affaires immobilières et, bien entendu, le pétrole.
Ouais, c'est donc Boudiaf qu'ils vont choisir. Hein.
Un personnage emblématique, puisqu'il a été l'un des pionniers du combat contre la colonisation. Et surtout, il a un avantage énorme sur les autres candidats possibles. Il vit depuis de longues années à l'étranger, au Maroc exactement.
Il faut me rappeler pourquoi c'est un avantage.
Les généraux estiment qu'il est coupé de la réalité algérienne et donc qu'il ne sera pas en mesure de s'occuper de leurs affaires.
C'est-à-dire qu'il ne sera pas susceptible de comprendre le système mafieux qui a été mis en place.
Et voilà. Mais la nouvelle marionnette va rapidement échapper à ses créateurs. Boudiaf n'est pas n'importe qui. Et il n'est pas décidé à s'en laisser compter. Rapidement, et malgré la surveillance constante dont il est l'objet, il donne d'inquiétants signes d'indépendance. Pire, il dénonce publiquement la corruption, commande une enquête, fait arrêter un important trafiquant lié à un général, et limoge un autre officier supérieur, membre de la clique. Bref, Boudiaf devient très gênant.
Mais je crois me souvenir que les officiers qui ont entrepris d'enquêter sur la corruption seront abattus. Hein.
Et on mettra leur assassinat sur le compte des islamistes.
Ah oui, pratique ça. Et on finira par éliminer Boudiaf lui-même.
Oui, fin juin 92, soit à peine 6 mois après son retour en Algérie. Oui.
C'est un obscur sous-lieutenant qui l'a là-bas.
Un militaire de la direction de la sécurité militaire qui a été manipulé lui aussi et qui sera bien sûr accusé d'être un islamiste enragé.
Mais pour vous, c'est clair, hein, ce sont les généraux qui sont derrière.
C'est évident. Et à partir de là, on assiste à une folle course en avant. Civils, policiers, militaires sont indifféremment pris pour cible par le GIA. Et autant vous le dire, ça arrange le pouvoir.
Pour quelle raison, là ?
Bah, y en a plusieurs. D'abord, ça permet de diaboliser les islamistes. Et donc, de justifier la politique de répression menée par les forces de l'ordre. Ensuite, les horreurs perpétrées par le GIA font qu'à l'étranger, on est enclin à soutenir les généraux. La deuxième raison est plus machiavélique. L'existence du ou des GIA permet de se débarrasser d'éléments généraux.
Ah oui, alors, lorsqu'on veut éliminer un opposant, bon, on met ça sur le compte du GIA.
Ah bah, c'est très pratique. La troisième raison est encore plus cynique. Les généraux mettent en avant leur lutte contre le terrorisme pour rester au pouvoir et mettre le pays en coupe réglée, au nom de la lutte contre l'intégrisme.
Alors, si je vous entends bien, ils sont donc tentés de prolonger ce conflit ?
Bah forcément. Parce qu'il est quand même difficile d'expliquer comment l'armée, qui est puissamment équipée et qui dispose du matériel le plus performant, entre nous grâce à la France, n'est pas encore venu à bout de ces maquisards qui peuvent descendre dans les villages et égorger impunément sans que l'armée, parfois casernée à proximité, n'intervienne.
Alors, ces généraux sont donc implicitement complices des tueurs du GIA.
Quand ils ne sont pas à l'origine même de la création de quelques GIA.
Ah, mais c'est, ça, c'est une accusation très grave. Hein.
En tout cas, la malheureuse population algérienne est prise en étau entre une clique corrompue et des fous sanguinaires. L'existence de l'une justifiant celle des autres. Mais avant d'aborder les relations contre nature qui existent entre les différents services algériens et les GIA, je voudrais attirer votre attention sur un point très curieux.
Bah, allez-y, je vous écoute. Là.
Eh bien, ne trouvez-vous pas étrange que les commandos du GIA ne se soient pratiquement jamais attaqués aux installations pétrolières, à l'exception d'un sabotage opéré contre une entreprise française?
Mais ils sont peut-être très protégés.
C'est sûr. On a même prétendu que si l'armée ne parvenait pas à réduire les maquisards, c'est qu'une grande partie de ses effectifs était mobilisée justement pour assurer la sécurité de ces installations.
Ouais, les hommes au pouvoir tiennent à leur rente pétrolière.
Certes. Mais enfin, je suis persuadé qu'il y a autre chose.
Alors quoi?
Beaucoup de ces puits de pétrole sont exploités par des sociétés américaines. Et les États-Unis, au moins jusqu'au 11 septembre, n'ont jamais été vraiment hostiles aux islamistes. Contrairement aux autorités françaises, le gouvernement des États-Unis a envisagé, sans trouble excessif, l'arrivée au pouvoir des islamistes à Alger. Et je suis même pratiquement certain que le fils a été discrètement encouragé par Washington. C'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, les États-Unis crient au loup terroriste. Et ce n'est pas innocent.
Si aujourd'hui, pour les Américains, l'islamisme est le mal absolu, il n'en a pas toujours été ainsi. Voici par exemple ce que l'on peut lire dans un rapport de la Rand Corporation, l'un des centres de recherche proches de la CIA, rapport écrit en 1995 par un certain Graham Fuller. La question n'est pas tellement de savoir si le fils arrivera au pouvoir, mais comment il y parviendra, jusqu'à quel point il le contrôlera et avec qui il devra le partager. Dans la suite de son rapport, Fuller envisage sereinement cette hypothèse qu'il ne juge pas dommageable pour les intérêts des États-Unis. Au contraire, il pense que l'islamisme est un corps soluble dans le nouvel ordre mondial. L'expérience vaut donc d'être tentée. Et il conclut, je le cite à nouveau, « L'islamisme ne ressemble pas au communisme. Il n'a pas de direction, pas de programme central. La politique islamiste découle directement de la culture locale traditionnelle. Enfin, les mouvements islamistes présentent une diversité considérable et le principe antidémocratique ne leur est pas inhérent. De surcroît, ils évoluent avec le temps. Enfin, les gouvernements islamistes ont toutes les chances de se multiplier au Moyen-Orient dans les années à venir, prenant de nombreuses formes différentes. Ils auront à apprendre à vivre avec l'Occident et l'Occident aura à apprendre à vivre avec eux. Cette expérience avec le fils algérien a donc une portée considérable.
Poursuivons cette histoire du GIA avant d'en venir au GSPC, qui est son héritier naturel. Notre pays, vous le savez, va finir par être pris en otage dans ce conflit algéro-algérien.
À cause de son soutien aux généraux.
Bien sûr. Même si les gouvernements successifs ne veulent pas donner l'impression de choisir entre les généraux et les islamistes. Il est clair que nous sommes du côté des hommes au pouvoir à qui nous accordons une aide économique importante et à qui nous livrons du matériel militaire. Ça va nous valoir d'être directement impliqués. Et cela commence en 1993. Avec l'assassinat de deux géomètres français. Puis, il y a ce curieux enlèvement de trois fonctionnaires du consulat.
Mais ça, c'est un enlèvement bidon.
Oui, enfin, ce sont les services algériens qui ont organisé ce kidnapping, parce qu'ils voulaient pousser le gouvernement français à agir contre les islamistes qui se trouvaient sur notre territoire.
Qui sera fait, hein.
C'est la fameuse opération Chrysanthème, ordonnée par Charles Pasqua. Une rafle dans les milieux musulmans opérée sans grand discernement.
Alors, une rafle spectacle.
Essentiellement, oui. Mais il est évident que chez nous aussi, l'islamisme progresse dangereusement. La France devient peu à peu une base arrière pour les militants du fils qui mènent la lutte armée contre le pouvoir algérien. Et Alger presse notre gouvernement d'agir plus fermement contre ces fondamentalistes qui recrutent même dans le milieu.
Oui, le milieu des gangsters, quoi. Le réseau Chalabi.
Oui, du nom d'un ancien truand touché par la grâce islamiste qui a créé diverses associations qui dissimule en réalité un réseau de soutien logistique au GIA. Une perquisition en novembre 1994 permettra de saisir un véritable arsenal, armes de guerre, munitions, produits chimiques et systèmes de transmission sophistiqués. Mais la réponse ne tarde pas. Un mois et demi après le démantèlement du réseau Chalabi, un commando du GIA prend en otage les passagers d'un Airbus d'Air France qui allait décoller d'Alger.
Oui, on connaît l'affaire. Un avion qui a ensuite atterri à Marseille.
Et les terroristes auraient eu l'intention de le précipiter contre la tour Eiffel.
Oui, mais à Marseille, l'appareil a été empêché de redécoller.
Et le GIGN est intervenu avec succès, oui. La réplique du GIA est immédiate. Dès le lendemain, quatre pères blancs résidant en Algérie, dont trois Français, sont assassinés. Il est clair que, tôt ou tard, les islamistes frapperont en France. C'est une véritable course de vitesse qui s'engage entre les terroristes qui vont tenter de reconstituer leur réseau démantelé et la police. La première offensive de la police a lieu en Belgique. Un réseau est identifié et anéanti. Des armes, des explosifs, des faux papiers sont découverts. Mais aussi les photos de deux hommes, un certain Ali Touchent et un autre nommé Boualem Ben Saïd.
Qui comparaîtra plus tard devant la cour d'assises spéciale.
Puis, un peu après, au tout début de l'été 1995, un autre réseau comprenant plusieurs dizaines de membres sur l'ensemble du territoire est démantelé par la police française.
Est-ce que la police là, pouvait penser qu'en ayant porté à nouveau un coup très dur aux terroristes, elle avait gagné en tranquillité?
Un répit, vous voulez dire?
Bah oui.
Non, pas vraiment. Dans les services, grâce à des informations concordantes, on s'attendait à ce que de nouveaux commandos soient envoyés en France. D'autre part, il résultait des enquêtes effectuées par les renseignements généraux, ou la DST, que des réseaux existaient toujours et que les islamistes étaient bien implantés dans les banlieues. Et ils en ont eu la preuve dès le mois de juillet avec l'assassinat du cheikh Sraoui à Paris.
Et rappelez-moi qui il était là.
Ce vieil homme était l'un des fondateurs du FIS. Et après le putsch des généraux, il avait trouvé refuge en France. Mais tout en étant partisan d'un régime islamiste en Algérie, il avait condamné la violence avec la plus grande fermeté. Ça en faisait, ipso facto, un traître pour les durs du GIA. D'autant qu'il entretenait, peut-être, des relations avec la police française.
Ah oui. Et est-ce qu'il avait reçu des menaces?
Oui. On lui avait même intimé l'ordre de ne plus parler.
De ne plus prêcher, vous
voulez dire. C'est ça. Mais le vieil homme n'avait pas tenu compte de ces menaces et il avait même refusé la protection de la police.
Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'on n'oserait pas s'attaquer à un imam?
Mais il a eu tort, car les tueurs, ils étaient deux, n'ont pas hésité à l'abattre à l'intérieur même de sa mosquée. Au passage, ils ont tué un autre homme qui tentait de s'interposer. Et après ce double assassinat, il s'est passé quelque chose de très curieux. Les deux tueurs se sont enfuis, mais dans leur course, ils ont abandonné un sac.
Perdu, vous voulez dire?
Eh bien, je ne sais pas.
Soyez plus clair, là.
Bon, c'est le contenu de ce sac qui pose question. Car à l'intérieur, les enquêteurs ont découvert tout un matériel qui pouvait être destiné à fabriquer une bombe artisanale. Et je me demande pourquoi ces deux assassins portaient ce sac qui n'était nullement nécessaire à leur mission.
Et qui pouvait même les embarrasser.
Alors je me dis, mais enfin, sans avoir de certitude, qu'ils ont abandonné ce sac pour adresser un message à la police.
Quoi, pour annoncer les futurs attentats?
C'est une possibilité. La première bombe éclate 2 semaines seulement après l'assassinat du cheikh Sraoui.
Dans le RER à la gare Saint-Michel.
Oui, un vrai massacre. Mais enfin, inutile d'y revenir car vous avez encore en mémoire les terribles images de cet attentat qui a causé la mort de 8 personnes et fait des dizaines de blessés. Ensuite, il y aura le dépôt d'une autre bombe près de la place de l'Étoile. Puis, l'explosion de colis piégés sur un marché, boulevard Richard Lenoir à Paris. Devant une école juive à Lyon et encore à Paris au métro Maison Blanche et à la station Quai d'Orsay.
Mais c'est la tentative ratée perpétré sur la ligne TGV Paris-Lyon, qui va permettre à la police d'avancer sérieusement.
Oui, oui, car les enquêteurs vont miraculeusement trouver sur un adhésif qui entourait le dispositif meurtrier une empreinte digitale. Celle de Khaled Kekal, un jeune délinquant d'origine algérienne et déjà connu des services de police. Et ça va permettre de remonter rapidement la piste des terroristes. Mais sans vouloir amoindrir les mérites de la police, je suis aussi certain que les enquêteurs ont bénéficié de tuyaux qui provenaient directement d'Alger. Car la DST, enfin notre contre-espionnage, continuait à entretenir d'excellentes relations avec les services algériens.
Une question avant d'en venir à l'enquête proprement dite là. Est-ce que ces attentats, particulièrement meurtriers, sont revendiqués?
Jamel Zitouni, l'émir du GIA, en assume la responsabilité. Zitouni, l'homme qui sera aussi à l'origine de l'assassinat des 7 moines de Tibérine en 1996, et puis de bien d'autres massacres encore.
Mais je me souviens que vous m'avez dit que ce type-là, Zitouni, était vraiment vraisemblablement manipulé par les services algériens.
Ce n'était pas le seul. Alors, revenons un instant sur ces terribles attentats de 1995. Notamment sur ce jeune délinquant de la région lyonnaise. Les enquêteurs trouvent des documents qui permettent non seulement de prévenir d'autres attentats, mais aussi de remonter la piste des autres membres du réseau. C'est ainsi que Boualem Ben Saïd et Ali Belkacem, deux des dirigeants de ce réseau du GIA en France, vont finir par être arrêtés à l'automne 95. Mais un homme a échappé à la police.
Et qui alors ?
Un nommé Ali Tichent, qui se fait aussi appeler Tarek. Un homme qui était sans doute le véritable chef de réseau et qui était en contact direct avec les commanditaires des attentats. Les vrais commanditaires.
La population immigrée en France serait-elle un vivier pour les terroristes ? Et qu'en est-il des relations des jeunes des cités et des mouvements tels que les GIA ? J'ai trouvé une réponse dans un autre livre d'Antoine Sfer, Les réseaux d'Allah. Après une opération militaire en Algérie, les terroristes recherchés et traqués par les militaires quittent le pays pour l'Europe, explique Larbi, un Français de la Courneuve. Étudiant en sciences sociales, il a été approché par le GIA en 1994 pour, entre guillemets, transporter des paquets jusqu'à Lille. Il a fait quelques transports dans le Nord, en région parisienne, à Colombes et à Lyon. Je remettais les paquets à des gens que je ne connaissais pas. En Algérie, il dispose de filières d'exfiltration mises au point et rodées depuis 6 ans. En Europe, ils sont accueillis par des amis, militants de longue date, avec lesquels ils sont restés en contact. L'ami en question est blanc comme neige. En aucune manière, il ne se mouille. En France, commence un travail d'approche qui se fait généralement autour des mosquées ou des centres islamiques. Il n'est pas question de recruter des jeunes des cités, dit Larbi. Lorsque cela arrive, c'est une erreur, due le plus souvent à une initiative personnelle. Les jeunes des cités délinquants recyclés dans le djihad sont plutôt recrutés pour un coup, un attentat en France. Pour les amis de Larbi, la cible de choix est un homme au-delà de 25 ans, bon musulman, apparemment intégré dans la société française. L'idéal serait qu'il ait une situation sociale, un métier respectable, un scientifique de haut niveau. Le livre de Sfer a été publié en 2001 par les éditions Plan.
Vous laissez planer un mystère, là, mais attendez, le commanditaire de ces attentats de 1995, c'est le GIA, non ?
Apparemment, oui. Car c'est en cherchant vraiment qu'apparaissent les zones d'ombre. Le personnage de Tarek, par exemple. C'est loin d'être un inconnu pour la police française. En 1989, cet étudiant en architecture a déjà suscité la curiosité de la DST.
Pourquoi ?
Il a créé à Paris une section du FIS, mais on se contente d'avoir un œil sur lui.
Oui, parce que le FIS était alors un parti légal en Algérie.
C'est juste. Ouais. Cependant, la suite est étrange. Après un séjour dans son pays au moment des élections législatives, il revient en France où il ne cesse de voyager sous les identités les plus diverses.
C'est déjà un militant clandestin.
Ça y ressemble. Mmh. Mais écoutez. En 1993, lorsque Pasqua déclenche la première rafle dans les milieux islamistes, Tarek Tichent échappe miraculeusement à l'arrestation. Une autre fois encore, la même année, alors qu'il s'est caché dans un foyer d'immigrés, il parvient à s'enfuir. Ensuite, on le signale dans plusieurs pays européens où il est soupçonné de se livrer à des trafics d'armes.
En faveur des maquis islamistes ?
Probablement. Et à nouveau, il réussit à fuir à temps lorsque la police belge s'attaque à un réseau du GIA en mars 1995. Toutefois, la DST le suit à la trace. Mais l'homme est insaisissable. Et quand la police démantèle le réseau des poseurs de bombes de 1995, Tichent s'échappe à nouveau.
Ça fait beaucoup, hein ? Alors, la première explication qui vient à l'esprit est que ce Tichent aurait pu être une taupe de nos services, les services français, je veux dire. Mm-hmm. Et qu'à chaque fois, il aurait été alerté à temps.
Vous n'êtes pas le premier à vous poser la question, mais la DST a nié avec la dernière énergie.
Oui, je veux bien, mais enfin, mais si ce Tichent avait réellement été une taupe, la DST aurait pareillement nié. Hein.
Oui, enfin, vous avez raison. Bon, enfin, Pensez-vous que si ça avait été un type manipulé par nos services, ceci aurait laissé le GIA commettre des attentats aussi meurtriers sur notre sol? Non, ça me paraît difficile à avaler, même si je ne mésestime pas le machiavélisme inhérent à l'action des services secrets.
Alors, pourquoi ce Touchent a pu s'en sortir à chaque fois?
La suite va vous permettre de vous en faire une idée. En 1996, Touchent se trouve en Grande-Bretagne, puis il disparaît. On le retrouve à Alger, où pourtant il est en principe activement recherché. Il habite dans une cité où sont logés les CNS, l'équivalent de nos CRS. Bizarre, non?
Ah oui, ça je vous le concède. Hein.
Et en 1997, il décède de mort violente dans l'un des endroits les plus surveillés d'Alger, près de l'hôtel Edjezeir. Ben, il faudra attendre plusieurs mois pour que les autorités algériennes identifient formellement son cadavre et communiquent ses empreintes digitales aux enquêteurs français.
Je vois ça, ce que vous voulez insinuer. Hein. Touchent était en réalité un agent des services algériens?
Il a été abattu parce qu'il en savait trop, ou qu'il avait cessé de servir.
Ça n'explique pourtant pas comment il a pu échapper chaque fois à la police.
Je vous ai dit que la DST était dans les meilleurs termes avec le DRS algérien, l'ancienne sécurité militaire. Les deux services s'échangeaient des tuyaux et collaboraient dans la lutte contre les organisations islamistes. Les Algériens étaient donc bien placés pour prévenir Touchent des menaces qui pesaient sur leur taupe. En fait, grâce à ce type, le DRS manipulait les hommes du GIA en France. Et je ne suis pas le seul à le dire, hein, le propre frère de Touchent l'a reconnu.
Peut-être, mais si c'est vrai, quel était l'intérêt des Algériens?
En manipulant les poseurs de bombes, les services algériens voulaient nous impliquer dans la guerre qu'ils menaient eux-mêmes. Et nous impliquant, ils justifiaient tous les coups tordus auxquels ils se livraient dans leur pays. Cette sale guerre qui leur permettait de rester au pouvoir. Ça n'est pas plus compliqué que ça.
Je veux bien vous croire, mais... Attendez, vous avez des preuves, là?
Des preuves? Vous savez bien que dans ce genre d'affaires, il n'y en a jamais. Même s'il existe de fortes suspicions de double jeu pour plusieurs personnages, membres du GIA, comme ce sinistre Zitouni ou ce fameux Touchent dont nous venons de parler. Mais je vais vous donner une indication supplémentaire. Je vous l'ai dit au début de cet entretien, les premiers militants islamistes algériens ont généralement été des Afghans.
C'est-à-dire, rappelons-le, hein, des Algériens qui sont allés combattre en Afghanistan. Hein.
Contre les Soviétiques, oui. Ouais. À leur retour, ces types ont joui d'une formidable popularité. Et c'est en partie grâce à eux que les dirigeants du FIS ont pu recruter si facilement chez les jeunes. Seulement, ce que ces nouveaux convertis ne savaient pas, c'est que certains de ces Afghans étaient des agents doubles.
Attends, c'est-à-dire, là?
Dans les années 80, lorsque les Saoudiens, les Américains et l'organisation de Ben Laden ont massivement recruté des Moudjahidines pour lutter contre le régime afghan soutenu par les Soviétiques, l'Algérie était au mieux avec ces mêmes Soviétiques qui lui fournissaient des armes et des conseillers de tout poil. Et les Russes ont demandé aux Algériens d'infiltrer quelques-uns de leurs agents parmi ces combattants qui allaient faire la guerre au nom d'Allah.
Ah oui, alors, par conséquent, ces types-là, à leur retour, sont demeurés des agents au service des Algériens.
Exactement. Et ils le sont restés quand ils ont été sollicités par les islamistes du FIS puis du GIA. Ça signifie que les services algériens ont toujours été informés des actions de la branche armée du FIS ou du GIA, et qu'ils ont pu les manipuler comme ils l'entendaient. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir été trop long, mais revenons au GSPC qui inquiète tant aujourd'hui.
Oui, le GSPC héritier du GIA, n'est-ce pas?
Il n'y a aucun doute là-dessus, oui. Et c'est d'abord une question d'homme, de dirigeant, si vous voulez.
Une parenthèse avant. Ce salafisme, là, dont se réclame ce nouveau groupe.
Le salafisme n'est ni une organisation religieuse, ni un mouvement en tant que tel. C'est d'abord un courant de l'islam. Les salafistes en appellent à la purification de l'islam. C'est-à-dire qu'ils entendent le débarrasser de tous les apports culturels ou religieux étrangers.
Ouais, ce sont des fondamentalistes, non?
Et qui réclament la stricte application de la charia. Naturellement, ce dogmatisme conduit vers l'extrémisme.
Tout peut conduire. Et ça, c'est le djihad.
En effet. Ouais. Alors, les hommes? Eh bien, le GSPC est né en 1998 d'une scission du GIA. L'initiateur de ce divorce est un certain Hassam Attad. À noter que la famille de cet ancien émir du GIA a été soupçonnée d'avoir participé à l'assassinat des moines de Tibérine.
Qu'est-ce qui provoque cette scission?
Attab veut à la fois en finir avec les conflits internes du GIA qui dégénèrent souvent en confrontation armée.
Accusé, j'imagine, par ces agents infiltrés là, de la direction de la sécurité algérienne.
Forcément. Et puis, Attab est aussi opposé au massacre collectif de civils. Et très vite, on a l'impression que c'est un groupe plus discipliné, plus homogène, plus structuré aussi qui vient de naître. Et de nombreux membres du GIA sont tentés de rejoindre le GSPC. D'autre part, la nouvelle organisation va bénéficier de la politique de concorde civile prônée par le président Bouteflika dès son accession au pouvoir.
Et pourtant, ça devrait être le contraire, non ?
On pourrait le penser, c'est vrai, mais amnistie veut dire libération des prisonniers. Et un certain nombre de ces militants remis en liberté vont rejoindre le GSPC. Et on va trouver parmi eux plusieurs déserteurs de l'armée algérienne. Enfin, c'est important, il semble bien que le GSPC se soit attaché à cultiver ses soutiens à l'extérieur de l'Algérie.
En Europe,
hein. Oui, des soutiens tactiques et financiers. Les mosquées britanniques auraient en particulier contribué à aider le nouveau mouvement.
Mais des mosquées qui entretiennent aussi des relations avec Al-Qaïda.
Et dès lors se pose la question des rapports qui existent entre l'organisation de Ben Laden et ce GSPC.
Alors, votre avis ?
Bon, écoutez, je ne vais pas bâcler cette importante question en quelques phrases, car nous arrivons à la fin de cet entretien.
Alors, vous allez y revenir la semaine prochaine ?
Ah, si vous le voulez bien, oui, mais je peux vous dire tout de suite, et je l'ai déjà laissé entendre, que l'affiliation du GSPC à Al-Qaïda arrange beaucoup de gens. L'hypothèse de l'existence d'une hydre islamiste sévissant depuis l'Afghanistan jusqu'au Sahel, en passant par l'Indonésie, très séduisante.
Mais pour vous, c'est suspect.
Ça mérite en tout cas d'être approfondi. D'autre part, il faut s'interroger sur les sources d'information. Or, il apparaît que la plupart des renseignements sur le GSPC sont diffusés par la seule Algérie.
Ouais, méfiance donc.
Ouais, car là-bas, c'est toujours l'ancienne sécurité militaire devenue le DRS, département du renseignement et de la sécurité, qui mène la danse. Enfin, il ne faut jamais négliger les intérêts économiques des uns et des autres, mais nous en reparlerons.
Nombreux ont été ceux qui se sont posés des questions à propos du mystérieux Tarek ou Touchent. On a même prétendu qu'il avait été recruté par notre service de renseignement, la DGSE. D'autres ont affirmé que c'est lui qui a dénoncé le groupe de Khaled Kelkal. Alors, malgré les affirmations de M. X, le mystère demeure. Aussi ai-je consulté le livre de Ali Laidi, Le djihad en Europe, et j'y ai lu ceci. Cette incroyable capacité qu'a Touchent d'échapper au coup de filet laisse pantois. Forcément, on s'interroge et on élabore les pires scénarios. Touchent est-il une taupe des services algériens chargée d'embraser la France pour déclencher la répression des autorités contre les réseaux de soutien aux islamistes algériens? Touchent bénéficie-t-il du soutien de certains clans au pouvoir en Algérie? Des preuves? Elles sont maigres. Tout juste un numéro de téléphone relevé sur un carnet d'adresses lui appartenant, suivi des initiales DS, qui pourrait bien correspondre aux coordonnées des services de sécurité algériens. Il est probable qu'on n'en saura jamais plus. Je vous rappelle que ce livre a été publié au Seuil en 2002.